Bonjour, chers frères. C'est un plaisir de vous voir tous. Pour ne pas perturber la vision du ministère, je laisserai mes commentaires sur le temps en privé, et non pas seulement une question de différentes administrations. Alors, qui aime les quiz ou les petits jeux? Je détestais les quiz à l'école, mais cet après-midi, c'est moi qui suis le professeur, alors devinez quoi? Nous pouvons faire un quiz. Eh bien, le petit jeu auquel nous allons jouer est le suivant. Pouvez-vous deviner l'écriture? Voici donc. Ta beauté et ton amour me poursuivent. Quelque chose vous vient à l'esprit. Et pourquoi pas, je ne serai jamais seul car tu es près de moi. Quelque chose te vient à l'esprit. Je n'ai pas dit que j'allais utiliser l'écriture New King James. Juste pour vous donner un petit indice. Vous me servez un repas si plat. Quelque chose. Le suivant. La peur ne me vaincra jamais parce que tu l'as déjà fait. Non. Et celle-ci? Le ruisseau tranquille de la félicité. Je ne pense pas que je sois un très bon professeur si c'était vraiment une interrogation. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Bien sûr, je n'utilise pas la version King James. Peut-être que ceci vous aidera. Je vais vous donner un petit indice. Un rappeur des années 90 a utilisé des passages de ce psaume dans une chanson populaire. Peut-être que je me vieillis en disant quelque chose qui date des années 90. Un humoriste juif ou un chanteur comique juif a également utilisé ce psaume. Si l'un d'entre vous pensait ou écrivait le psaume 23, Le Seigneur est mon berger, il obtiendrait l'étoile d'or du professeur pour l'interrogation. La raison pour laquelle j'utilise ces mots ou ces citations, la raison pour laquelle je fais référence à un chanteur des années 90 et à un humoriste juif, je suis sûr que vous pouvez rapidement penser à qui était cet humoriste juif, c'est que l'humanité a tendance à prendre des paroles très importantes de Dieu et à en diminuer la valeur. L'humanité. La nature humaine peut, de temps à autre, prendre les paroles de Dieu et les rabaisser à un point tel que, dans un certain sens, elle se moque finalement des instructions ou des paroles de Dieu à notre égard. Cet après-midi, j'aimerais que nous allions tous au psaume 23. Nous allons le lire et en expliquer les paroles, et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Nous allons voir quelle est son importance pour nous, et que c'est bien plus qu'une simple chanson d'un genre particulier ou qu'une très mauvaise traduction de l'homme simplifiant les paroles importantes de Dieu. Nous nous tournons donc vers le psaume 23. Oui. Nous savons aussi que c'est un hymne très important. C'est un hymne. Nous en chantons quelques-uns. Certaines traductions sont significatives, mais l'un de mes objectifs aujourd'hui est de nous montrer à tous qu'il est beaucoup plus profond, beaucoup plus instructif, beaucoup plus encourageant qu'un simple hymne. Un simple hymne populaire. Passons au psaume 23 et lisons-le maintenant. Assurez-vous que votre marqueur est bien là. Nous allons entrer et sortir de ce psaume tout au long du message. Donc, le psaume 23. Nous allons lire tout le message, tout le chapitre, pour nous l'imprégner. Nous commençons donc par le premier verset. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, il me console. Verset 5. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Verset 6. En conclusion, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à jamais dans la maison de l'Éternel. Un texte populaire, un texte que nous avons tous mémorisé de temps en temps. Je dois dire qu'en préparant ce message, je ne le connaissais pas aussi bien que je l'aurais dû. Je ne l'avais pas en mémoire. Peut-être qu'il y a de nombreuses années, dans les cours de l'IA, les CBL que nous appelons aujourd'hui, c'était un travail de mémoire. Je ne l'ai pas gardé en mémoire, mais c'est une leçon qu'il serait bon d'avoir apportée demain, mais entrons dans le vif du sujet maintenant. Développons les paroles de Dieu. Développons l'importance de ce chapitre. Donc, le premier verset. Relisons-le. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Faites une petite pause et réfléchissez-y un instant. Maintenant, lisez-le rapidement. Tout au long du message, nous ferons une petite étude des mots-clés importants de chaque verset. Ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le mot « berger » signifie « gouverner ». Mais il est également intéressant de noter qu'il signifie « compagnon », avec qui l'on se lie d'amitié. Donc ces premiers mots, « le Seigneur est mon compagnon ». « Le Seigneur est mon ami ». Oui, le Seigneur est mon chef. Cela ajoute un peu plus de profondeur aux cinq premiers mots du chapitre. Mais surtout, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que le manque? Il peut également signifier manquer. Je ne diminuerai pas. Je ne manquerai pas. Ainsi, le plus court des six versets contient une grande profondeur. À bien des égards, il y a beaucoup de sens perspicace. Notre Dieu est notre chef, notre compagnon, notre ami. Et lorsqu'il est notre chef, notre ami et notre compagnon, nous ne manquons de rien. Nous ne serons pas diminués. Nous n'échouerons pas. Prenons quelques versets pour expliquer cela plus en détail. Allons à Jean 10 et au verset 14. Parlons de la première moitié de ce verset, « Mon berger, le Seigneur est mon berger ». Allons à Jean 10 et au verset 14. Il y a deux choses avec l'appel, le fait de dire, de faire la déclaration, « Le Seigneur est mon berger ». Dieu nous appelle. Nous devons également répondre à cet appel. Mais apprenons un peu plus sur le berger. Christ parle ici au verset 14 de Jean 10. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et j'ai connu les miennes. Comme le Seigneur me connaît, moi aussi je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. Voilà donc notre berger, Christ. Dieu aussi, jusqu'à un certain point. Mais Christ a donné sa vie pour nous. Nous connaissons l'histoire, cette histoire, nous connaissons cette grande signification. Mais Dieu est ce bon berger. Il se soucie de nous, au point de donner sa vie pour nous afin que nous puissions avoir la vie. Regardons un peu plus loin, au verset 27, où Christ donne d'autres explications. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Encore une fois, le Seigneur est mon berger. Nous entendons sa voix et nous le suivons. Le verset 28, pour voir où nous en sommes, pour voir où cela nous place. Et je leur donne la vie éternelle, par sa mort et sa résurrection. Et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Donc, si le Seigneur est notre berger, je pose cette question de manière rhétorique. Nous sommes dans sa main. Et rien ne peut nous en détacher. Et plus loin, au verset 29. Mon Père qui me les a donnés. Ainsi, en fin de compte, Dieu nous appelle. Il est plus grand que tous et nul ne peut les arracher de la main de mon Père. Nous sommes donc à la fois dans l'un et dans l'autre. Nous avons peut-être déjà entendu cela auparavant. Nous sommes dans les mains du Christ et nous sommes dans la main du Père. Ils nous tiennent tous les deux, ils nous bercent, ils nous conduisent. Quelle place! Ainsi, lorsque nous disons que mon Seigneur est mon berger, imaginez où nous sommes, où cela nous place, où cela nous met dans les mains de Dieu et du Christ. Et nous lisons au premier verset du psaume 23 que nous ne manquerons de rien. Dieu l'a déjà fait, il l'a même déjà fait. Allons au Deutéronome 22 et au verset 7 pour en voir un exemple, et il le fait dans nos vies. Il veille à ce que nous ne manquions de rien. Nous pouvons facilement avoir à l'esprit de nombreux cas où Dieu s'est occupé de nous et a pris soin de nous. Mais dans Deutéronome 2 et le verset 7, il est question de l'errance d'Israël dans le désert. Nous voyons que cela est lié à l'errance d'Israël dans le désert, à la sortie d'Égypte et à l'errance vers la terre promise. Cela ressemble à notre vocation dans cette terre, dans cette vie, nous errons dans le désert de ce monde. Deutéronome 2 et verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni, toi et toutes les œuvres de tes mains. Il sait que tu marches dans ce grand désert depuis 40 ans. Le Seigneur Dieu a été avec toi, et tu n'as manqué de rien. Pendant ces 40 années d'errance dans le désert, Israël n'a manqué de rien. Alors que nous errons dans le désert, Dieu nous promet que nous ne manquons de rien. Passons à Néhémie 9. Un peu plus de détails sur la façon dont Dieu a pourvu aux besoins de l'ancien Israël pendant qu'il errait, et c'est encourageant et inspirant pour nous de voir comment Dieu pourvoit à nos besoins. Il nous a appelés, nous l'avons choisi comme berger et il nous promet que nous ne manquerons de rien. Voyons ce que notre Dieu a fait pour l'ancien Israël. Néhémie 9 et le verset 21. En fait, commençons la lecture au verset 19. Tu ne les as pas abandonnés dans le désert, par de nombreuses et multiples compassions. La colonne de nuée ne les a pas quittés de jour pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu de nuit pour leur montrer la lumière et le chemin qu'ils devaient suivre. Dieu ne les a donc jamais quittés. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Tu leur as donné ton bon esprit pour les instruire. Ils ont été instruits dans les voies de Dieu tout au long de leur marche dans le désert. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as donné de l'eau pour étancher leur soif. Ils n'ont jamais eu soif. Ils n'ont jamais manqué de nourriture. Oui, il y a eu des moments, bien sûr, où Dieu les a mis à l'épreuve, pour qu'ils apprennent des leçons, pour qu'ils forgent leur caractère. Nous savons que cela se produit aussi dans nos vies, mais en fin de compte, ils avaient de la manne et de la nourriture. Ils avaient de l'eau et de la nourriture. Et au verset 21. Oui, pendant 40 ans, tu les as soutenus dans le désert, et ils n'ont manqué de rien. Nous y revoilà. Leurs vêtements n'ont pas vieilli, et leurs pieds ne se sont pas enflés. Quel miracle! Pendant 40 ans d'errance dans le désert, leurs vêtements ne se sont jamais usés. Leurs chaussures n'ont jamais été trouées. La nourriture était toujours là et l'eau était toujours abondante. Vous voyez dès le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Nous répondons à l'appel du Père. Nous suivons Christ comme notre berger. Nous choisissons Dieu comme notre chef, notre ami et notre compagnon. Nous ne manquerons de rien. Quelle belle promesse et quelle position encourageante pour nous tous. Ce n'est que le premier verset du psaume 23. Revenons-y. Voyons ce que le deuxième verset peut nous apprendre. Voyons ce que le deuxième verset peut nous montrer. Lisons-le d'abord. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une étude de mots. Regardons donc les mots clés ici. Se coucher. Faire reposer, s'asseoir, se reposer. Dieu nous fait donc reposer, nous fait asseoir, nous met en repos. Le verre, c'est de l'herbe neuve, tendre, saine. Il est un berger et nous sommes ses agneaux. Nous sommes ses brebis. Il nous donne ce dont nous avons besoin en nourriture, en subsistance. Le mot suivant. Pâturage. Vous savez, j'ai trouvé cela assez intrigant. Très instructif. Vous l'avez lu au début. Des pâturages verts. Dieu nous amène donc à l'herbe verte et fraîche d'un pâturage. Et il appelle le pâturage plus que cela. Le mot désigne ici une maison, une habitation, un lieu agréable, bien sûr, mais aussi un pâturage. Dieu nous appelle donc à nous reposer là où nous sommes nourris d'herbes vertes, dans une maison, dans une habitation, dans un lieu agréable. C'est là que Dieu nous amène, nous conduit. Mot suivant. Conduit. Et nous verrons que Dieu nous conduit de multiples façons. Dans le verset suivant, nous verrons le mot à nouveau. Nous verrons un mot différent, en fait, un mot différent utilisé, une traduction différente. Mais ici, Dieu nous porte. Le mot conduire peut aussi être porté, nourrir, guider, nous faire avancer doucement. Comment cela décrit-il dans votre esprit le Dieu que nous suivons? Le Dieu qui est notre souverain. L'être qui est aussi notre berger. Il nous porte. Il nous guidera. Il nous conduira doucement. Quel amour et quelle sollicitude pour le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quelle image cela donne. Allons plus loin. Les mots clés suivants. Au calme. Si calme. Paisible, confortable, facilité, calme. Un lieu de repos. Toujours. Le mot tranquille. Et l'eau est aussi simple. Nous allons le découvrir de façon étonnante. En parcourant les mots, certains d'entre eux signifient simplement que l'eau est de l'eau. D'autres mots sont accompagnés d'une longue liste de définitions, ce qui est très instructif. Mais l'eau, c'est juste de l'eau, une source ou un ruisseau, c'est simple. Nous voyons donc ici que Dieu veut que nous nous couchions dans de verts pâturages. Il nous conduit vers des eaux tranquilles. C'était un point secondaire. Quelque chose de proche et de cher à mon cœur. Proche. Être proche de la nature. J'aime être entouré de la création de Dieu. Cette instruction nous est donnée d'une certaine manière. Regardez-la aussi d'une manière plus importante. Mais d'une manière, en étant proche de la création de Dieu. Pourquoi l'extérieur est en grande partie vert? Dieu l'a créé comme une couleur extrêmement apaisante pour nous. C'est une couleur qui nous met à l'aise. Donc, si nous avons besoin de nous sentir à l'aise en présence de la création de Dieu, il suffit de faire le lien entre les deux. Plus nous sommes souvent autour d'elle, plus nous sommes souvent avec elle, plus elle peut être apaisante, plus elle peut nous mettre au repos et à l'aise. Il existe de très nombreuses études, l'homme met du temps à rattraper les instructions de Dieu. Dans sa parole écrite il y a des milliers d'années, l'homme rattrape avec de nombreuses études l'importance pour nous d'être dans la nature, d'être dans la création et la différence que cela fait pour notre bien-être. C'était quelquefois par été. Je dois dire que c'était un peu enfantin. J'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes et je me suis promené dans l'herbe. Quand avez-vous fait cela pour la dernière fois? Marcher dans les verts pâturages. Quelle sensation! Je sais que cela peut sembler un peu étrange, un peu différent. Oui, dans un certain sens, on peut dire que l'on est adulte maintenant, que l'on ne fait plus ce genre de choses. Essayez-le un jour si vous ne l'avez pas encore fait. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a placé dans sa parole. Mais surtout, où Dieu nous conduit-il? Que veut-il que nous fassions? Passons à Ézéchiel 34. Ce qu'il fera pour nous à l'avenir. Il explique un peu plus ce verset, mais plus important encore, à quoi Dieu nous conduit-il? Il nous conduit à garder ses lois et ses voies. Mais allons à Ézéchiel, et cela va en fait expliquer davantage le verset 2 et nous reviendrons à la déclaration que je viens de faire, mais Ézéchiel 34, Ézéchiel 34 et le verset 14, et nous lisons ici. Vous allez donc au verset 34 et au verset 14, juste une image différente de la façon dont on regarde la même image. Je les ferai paître dans de bons pâturages, sur les hautes montagnes d'Israël, et ils seront couchés dans de bons pâturages, et ils paîtront sur les montagnes de l'Éternel. Je ferai paître mon troupeau, je ferai paître mon peuple, et je le ferai reposer, dit le Seigneur mon Dieu. Oui, il s'agit d'un temps futur, mais si nous suivons Dieu, si nous appliquons le verset 1 dans notre vie, c'est nous aujourd'hui. Dieu nous nourrira. Dieu pourvoira nos besoins. Mais encore une fois, cela explique, verset 2, je veux revenir à la déclaration que j'ai faite. Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, bien sûr, passer du temps dans la création de Dieu. Dieu peut nous placer dans sa création pour des raisons et cela peut être physiquement utile, mais suivre l'exemple de Dieu lorsqu'il nous conduit doucement à obéir à ses lois et à ses voies, c'est la façon dont nous apporterons la vraie paix, le vrai repos et le vrai bonheur dans nos vies. Si nous obéissons aux lois de Dieu, si nous faisons sa volonté dans notre vie, c'est le seul, vraiment le seul moyen de nous coucher dans de verts pâturages, de nous approcher des eaux tranquilles. C'était le deuxième verset. Revenons au psaume 23. Regardons le troisième verset. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Encore une fois, regardons les mots, la première phrase, il restaure mon âme. C'est l'un de ces mots auxquels de nombreuses définitions sont attachées. Il élargit l'image. Un seul mot, Dieu restaure notre âme. Il restaure notre être, notre but, notre vie. Examinons les mots. Restaurer, revenir en arrière, peut-être, ou cela peut aussi signifier, mais ce n'est pas tout à fait le cas, revenir au début, ramener, ramener à la maison. Dieu nous ramène à la maison. Vous pouvez regarder la première phrase. Il nous ramène. Il nous convertit. Cela devrait résonner en nous dans notre appel. Notre conversion, Dieu nous convertit. Il nous change. Il nous rétablit, il nous rafraîchit, il nous soulage. Revenons au verset 2. Quand Dieu nous conduit à ces endroits, n'est-ce pas un soulagement? Sauver, restaurer, récupérer, retourner, inverser, se tourner à nouveau vers. Bien sûr, notre âme, notre vie, mais restaurer, tous ces mots qui s'y rattachent décrivent une image beaucoup plus grande qu'un seul mot. Il nous convertit. Il nous ramène à la maison. Il nous ramène. C'est incroyable ce que notre Dieu fait. Bien sûr, cela ressemble beaucoup à notre appel initial. Ce que Dieu a fait, nous sortir de ce monde, nous sortir de là où nous étions avant de nous appeler et de nous mettre sur un certain chemin. Nous y reviendrons dans la suite de ce verset. Et, bien sûr, chaque fois que nous allons à lui maintenant, chaque fois que nous appelons l'aide de Dieu, il continue à restaurer nos âmes, il continue à nous aider dans notre conversion et dans notre appel. C'est un processus qui, en fin de compte, ne s'arrête jamais jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume. Mais regardons de plus près ce qui se passe ici. Entendez un mot différent que Dieu utilise pour être défini comme guidé, et j'ai trouvé cela très curieux, pour transporter comme en exil, ou comme un colon, envoyé en mission, ou pour gouverner. Ici, dans ce verset, Dieu est décrit comme jouant un rôle beaucoup plus actif, une direction beaucoup plus pratique. Il nous envoie. D'accord, il ne nous envoie pas en exil. Il ne nous envoie pas en tant que colon pour conquérir d'autres terres, mais il nous envoie avec un but. Il nous envoie avec une grande intention, avec un grand dessein d'accomplir quelque chose. Il nous envoie et nous conduit de manière à nous gouverner, à gouverner ce que nous faisons. Regardons le mot « chemin ». Voici la définition, quelques mots seulement, mais elle est éclairante. Elle s'étend et l'amène à une plus grande profondeur. Ici, un chemin peut donc être une piste. Selon moi, il est très différent de parler d'un chemin ou d'une piste. Il est beaucoup plus difficile de s'écarter d'un chemin. Un chemin. On peut s'écarter d'un chemin beaucoup plus facilement, mais en plus, ce mot peut aussi signifier trancher. On pense souvent à une ornière. Dieu nous conduit donc dans les sentiers, dans une tranchée de justice. N'est-il pas difficile de sortir d'une ornière quand on y est coincé? Et c'est là qu'une ornière voudra s'enliser. C'est une tranchée dans laquelle nous voulons tous avoir nos roues proverbiales coincées. Est-il difficile de s'en sortir? Cela demande beaucoup d'efforts, et, bien sûr, nous ne voulons pas en sortir. Ce chemin n'est donc pas seulement un chemin, c'est une piste, c'est une tranchée. Et dans la langue vernaculaire, on peut dire que c'est une ornière. Et Dieu nous conduit, nous transporte, nous oriente vers un but. Qu'est-ce que c'est? Et les chemins de la justice. Bien sûr, la justice, nous nous efforçons tous d'être l'un des justes de Dieu. Le juste, le mot ici est le droit, le naturel, le moral, le légal, bien sûr, le pieux, l'équité, la prospérité et la justice. Dieu nous conduit sur le chemin de la justice et, en fin de compte, quel est le but? En fin de compte, c'est pour la gloire et le bénéfice de Dieu. C'est en fin de compte ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous dirige, il nous met dans cette ornière, vous pouvez dire, il nous met dans cette tranchée, et il nous guide vers la justice, pour finalement, pour sa gloire, dans son royaume. En outre, ou pour résumer ce verset, permettez à Dieu de vous guider, de vous convertir, de changer, de restaurer, de convertir, de récupérer nos âmes et de vous changer et de vous mettre dans une direction sur la voie de la justice. En fin de compte, la voie vers son royaume. Allons à Luc 9 et au verset 62. Un verset commun qui se rapporte de très près à ce sujet. Luc 9, verset 62. Dieu restaure notre âme. Il nous conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Ce que nous avons bloqué, cette tranchée dans laquelle nous nous trouvons ici, Jésus l'exprime d'une manière différente. Jésus lui dit, « Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est digne du royaume. » Ainsi, aucun homme mis dans cette ornière, mis dans cette tranchée, qui essaie d'en sortir et qui essaie de regarder ailleurs ou de regarder en arrière, n'est apte à entrer dans le royaume. Quel grand guide nous avons, qui nous conduit dans une mission qui, en fin de compte, est celle du royaume de Dieu. Frères et sœurs, une ornière et une tranchée dans lesquelles nous voudrons toujours rester coincés. Passons au verset 4, au psaume 23. Lisons le verset. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Développons l'image du mot. Vallée. Une vallée ou une gorge étroite et escarpée. Voilà ce que ce mot peut signifier. Cela nous rappelle un peu le chemin dont nous venons d'entendre parler. Dans mon esprit, ce que je vois rapidement, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon d'avancer dans cette vallée. Il n'y a qu'un seul chemin à suivre dans cette vallée et c'est celui de l'avant. Elle est étroite et c'est une gorge. Il n'y a pas d'option pour aller à droite ou à gauche ou pour grimper. Il n'y a qu'une seule option pour avancer et c'est l'ombre de la mort. Qu'est-ce que cela signifie? La mort est présente, donc la calamité grave. Il est plus que probable que, dans notre vie physique, nous n'ayons jamais été dans un tel endroit. Spirituellement, dans nos batailles, nous pouvons peut-être imaginer certaines des épreuves que nous avons traversées, car nous sommes passés par là. Nous avons été dans un tel endroit. Nous avons été là où la mort est présente, où l'échec que vous pourriez imaginer est présent. De grandes calamités dans nos vies. Mais ce verset est également très prometteur et plein d'espoir. Qu'en est-il de la peur? Bien sûr, la peur, juste le mot peur, faire peur, avoir peur, être effrayé, s'inquiéter. Mais il est dit, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien que je sois dans cette vallée où la mort est présente, où la calamité est présente, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai pas le mal. Et qu'est-ce que le mal? Ce mot l'explique. Affliction, malheur, calamité, détresse, mal, chagrin, dommage, blessure, malheur, misère, douleur, peine, trouble, méchanceté. Je ne crains rien de tout cela. Rien de tout cela ne me fera craindre, ne nous fera craindre. Lorsque vous êtes dans un endroit si sombre, si troublé, il s'agit, bien sûr, d'un psaume écrit par David, mais inspiré par nous. Dans la parole et la promesse de Dieu, nous ne craindrons aucun mal. Nous craindrons que rien ne puisse nous arriver. Pas d'affliction, rien de mauvais, pas de calamité, pas de détresse, pas de mal, pas de chagrin, pas de mal. Voilà l'image, mais pourquoi? Le verset explique cela. Vous êtes avec moi. Dieu, notre berger, est près de moi. Il est là. Il est juste à côté de vous. Il est avec vous. Dieu est avec vous à chaque pas dans cette vallée. Et les mots l'expliquent davantage. La verge, et ici j'ai trouvé étonnant que le mot soit défini, mais bien sûr, simplement, un bâton, il est utilisé pour punir, mais plus important, ici, il est utilisé pour gouverner et marcher. C'est un bâton. C'est un sceptre. Mais c'est un mot qui est le plus souvent décrit comme une tribu. Allons à Genèse 49 et au verset 16. Si vous trouvez surprenant que dans ce verset, le psaume 23 verset 4, il est dit « Ta houlette et ton bâton me réconfortent ». Ta houlette est plus souvent traduite par tribu. Allons à la Genèse 49 et au verset 16. Un exemple. Et ceci. Quand je l'ai lu et que je l'ai regardé, ce verset m'est apparu très différent de ce que j'avais vu auparavant. Jean 49 et le verset 16. Et tout simplement, je veux me concentrer ici sur la deuxième moitié, mais c'est le verset suivant, Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. C'est le mot tribu. C'est le même que celui du psaume 23, verset 4. Si vous revenez au psaume 23, nous avons encore quelques mots à examiner, mais l'image que nous voyons ici est très différente, car tu es avec moi. Oui, Dieu est avec moi, alors que nous marchons comme nous le faisons dans une si grave épreuve. Ta verge, ta tribu. Expliquons cela un peu plus en détail, ton peuple. Ceux qui sont appelés à vos côtés, Ceux qui passent peut-être par la même chose sont là avec vous. J'ai toujours considéré l'écriture comme une écriture très personnelle. C'est juste moi avec notre berger, Dieu qui nous guide, mais ce mot m'a fait voir les choses un peu différemment. Cela peut aussi signifier que nous sommes tous là ensemble. Ils se soutiennent les uns les autres lorsque nous traversons de profondes épreuves. Quelle image différente! Ce n'est pas seulement que Dieu est là avec sa houlette et son bâton, mais il est là avec sa houlette qui nous montre que sa tribu est là, que son peuple est là avec vous. Nous sommes là ensemble. Quelle image différente lorsque l'on examine les différentes définitions d'un mot, et, bien sûr, le bâton est un soutien, un protecteur ou une source de nourriture. Bien sûr, Dieu est là dans un tel endroit. Il nous soutient. Il nous protège. Il nous fournit ce dont nous avons besoin. Et finalement, à quoi cela sert-il? Il nous réconforte, nous console, nous réconforte, nous met à l'aise. Quelle image différente nous voyons ici dans ce seul verset. Relisons le verset, oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La mort et les calamités sont autour de vous, autour de nous, et nous ne craindrons aucun mal. Et pourquoi? Parce que Dieu est avec nous, son bâton et sa houlette, son peuple, sa tribu et sa houlette, son soutien, sa protection, sa subsistance, son autorité sont avec nous. Ses soins, en fin de compte, pour notre confort. Quelle image différente cela donne de ce verset. Expliquons cela un peu plus en détail. Allons à Ésaïe 41 et au verset 10. Ce que Dieu fera dans l'avenir est, lorsque nous suivons notre Dieu, notre berger, ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Ésaïe 41 et verset 10, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Ne vous laissez pas abattre, car je suis votre Dieu. Je suis ton berger. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Un autre passage prometteur qui explique plus en détail ce qu'il en est. Nous pouvons regarder ce verset, revenir au verset 4 du psaume 23. Nous savons que lorsque nous traversons des épreuves et que nous endurons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. En fin de compte, un résumé de ce verset. Revenons au psaume 23 et au verset 5. Nous allons maintenant expliquer ce que ce verset nous montre. Les mots que Dieu utilise ici ont été utilisés pour donner une image beaucoup plus profonde. Verset 25. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oindules ma tête, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ce verset semble d'abord intéressant. Dieu prépare une table devant nous en présence de nos ennemis, il oint notre tête d'huile, ma coupe déborde. En présence de notre ennemi, Dieu fait cela pour nous. Que fait-il? Que prépare-t-il? Il dispose, arrange, meuble, ordonne et commande. Dieu met une table, un festin devant nous en présence du monde, en présence de nos ennemis, devant, presque comme je le vois en dépit de comme une contrepartie avant, sur, et contre notre présence est aussi définie comme. Quelle image! Dieu crée une table, un festin en contrepartie du monde, en contrepartie de ceux qui nous entourent. L'ennemi, l'adversaire, bien sûr, le Dieu de ce monde, mais le monde qui nous entoure. C'est une affliction et une détresse qui est opprimée, qui est en difficulté. Le mot « ennemi » peut montrer. Ici, Dieu prépare une table en présence du monde, un festin. Et que fait-il? Il oint. Ici, bien sûr, Il s'agit de mots plus anciens, mais être gras, oindre, rassasié. Nous savons qu'être gras peut symboliser une grande bénédiction. Nous savons que l'onction et l'huile symbolisent le Saint-Esprit. Dieu se déverse donc sur nous, ce qui représente une grande bénédiction, un grand bienfait. De même, le symbole du Saint-Esprit, la plus grande bénédiction, l'Esprit de Dieu en nous pour nous guider et nous aider, mais ici l'image déborde. Ma coupe déborde, bien sûr, coupe signifie coupe, mais déborde pour satisfaire, abonder d'une manière riche. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous prépare un festin en présence du monde, nous oint et nous bénit, et nos coupes débordent. Quelle image! Cela me rappelle une question que j'ai posée à mes parents il y a longtemps, mais à titre d'exemple, la voix de Dieu fonctionne. Plus nous obéissons à Dieu, comme nous l'avons appris dans les versets précédents du psaume 23, ici, plus nous lui obéissons, plus il nous bénit. Et lorsque Dieu nous bénit, cela devient évident. Cela devient évident. Le monde peut le voir. J'ai eu une conversation avant la fête. Vous vous souvenez des ouragans? Vous vous souvenez des problèmes dans le monde et des problèmes qui font la une des journaux? Pourquoi allons-nous célébrer la fête? Comment nous réjouir d'une telle occasion? C'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous lui obéissons, si nous respectons ses lois et ses voies, notre lumière brillera de plus en plus fort. Et qu'est-ce que cela montrera au monde si nous gardons ses voies? Ce sera cette image, un festin, de grandes bénédictions, alors que le monde est dans la tourmente avec le monde qui nous entoure. Frères et sœurs, dans un sens, ne cachez pas votre lumière alors qu'elle devient plus brillante. Lorsque nous obéissons à Dieu et marchons dans ses voies, et que nous sommes un contraste avec le monde, ne cachez pas ce que Dieu fait dans nos vies. Vous devriez tous être encore là, dans le psaume 23. Lisons le verset 6. Nous arrivons à la fin du chapitre, du psaume. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Quel objectif extraordinaire! Qu'attendons-nous? Demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours. D'être dans le royaume de Dieu. D'être dans le temple de Dieu pour toujours. Mais regardons les mots ici. Et ici, bonté, je pense qu'il y a tous les mots positifs possibles qui y sont liés. Ce n'est probablement pas le cas, mais il semble que ce soit le cas. Permettez-moi de les lire. La bonté peut signifier bon, une bonne chose, une bonne personne, beau, meilleur, généreux, joyeux, juste, favorable, fin, heureux, bienveillant, gracieux, joyeux, aimable, aimant, joyeux, agréable, plaisir, prospérité, richesse. Tout cela tient en un seul mot. La bonté. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Quelle image étonnante si l'on rattache tous ces mots à un seul. Et puis la miséricorde. La bonté et la miséricorde me suivront. La miséricorde, la bonté, la faveur, les bonnes actions, la gentillesse, la bienveillance, la miséricorde, la pitié, l'amour bienveillant nous suivront tout au long de nos jours. Mais s'agit-il seulement d'une déclaration? Dans la première moitié du verset 6, David était un peu trop sûr de lui. Il conclut le verset, et, bien sûr, il est inspiré par Dieu, mais amusons-nous un peu. Était-il un peu trop sûr de lui en disant « La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie » Est-ce bien ce qu'il disait? Non. Reprenons le chapitre dans son ensemble. Il fait cette déclaration à cause des versets précédents. Il fait cette déclaration à cause des versets précédents, à cause du tableau que nous avons vu cet après-midi. Tout d'abord, David et le psaume, nous ensemble, nous avons choisi Dieu comme notre ami et notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Nous suivons l'exemple de Dieu et nous observons sa loi et ses voies. Il nous amène dans de bons pâturages et nous conduit vers des eaux tranquilles. Nous permettons à Dieu de restaurer, de convertir et de changer notre cœur afin qu'il puisse nous conduire et nous placer sur ce chemin, dans cette ornière, dans cette tranchée, et vers ce but ultime de justice, et pour être dans son royaume. C'est à cela que David faisait référence lorsqu'il a dit que la bonté et la miséricorde me suivraient. Il applique ces trois éléments et nous en lirons d'autres dans sa vie. Il a supporté toutes les épreuves qui se sont présentées à lui. Il a enduré les épreuves et les tentations jusqu'à la fin. Il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'a craint aucun mal. Il a enduré jusqu'à la fin. Et au verset 5, l'autre pointe où il déclare avec tant d'assurance, « La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. » Comme il a obéi à Dieu et que Dieu l'a béni, il a permis que son exemple, comme nous devrions permettre que notre exemple, soit vu. Nous obéissons à Dieu, nous marchons dans la voie de Dieu, nous vivons dans la voie de Dieu. Il nous bénit. C'est donc avec confiance, après avoir appliqué ces cinq versets, que le psalmiste, le roi David, et nous-mêmes pouvons dire « La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Dieu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. »